Déjà? Je vais vous parler de 2025, non? Voici un calendrier que peut-être vous avez accroché à vos murs, et jour après jour, page après page, vous avez effeuillé ce calendrier. Alors il y en a qui l'effeuillent très très bien, qui suivent bien la rainure et tout, hein, les découpages, et d'autres comme ça. Hein. Une fois, je me souviens, quand on faisait la distribution, il y a 25 ans de ça à L'Oriol, il y avait un gars, il nous avait ouvert sa porte pour recevoir le calendrier, et il était très content. Et on lui dit, mais vous le lisez? Il dit, oh non, 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 jamais de la vie. Mais ce calendrier me sert beaucoup. Parce que le matin, ma femme le lit, et moi avec, ben, avec le feu de la cheminée, j'allume ma pipe. Voilà. Donc un calendrier qui a servi. Hein. Mais bon, heureusement que sa femme le lisait. Et puis voici que les feuilles, voilà, passent jour après jour. Et à la fin, qu'est-ce qu'il reste? Ben, il reste un carton vide. N'est-ce pas? 2023 est passé. Et avec ses joies, avec ses tristesses, avec ses moments d'espoir, de désespoir, avec son allégresse, avec ses douleurs, 2023 est passé et il ne reste qu'un carton vide. Bien sûr, on a le nouveau calendrier qui est là, qui est disponible. Alors on va, voilà, pour ceux qui n'ont pas encore fait, hein, on va bien sûr enlever l'enveloppe, le mettre joliment sur cette jolie plaquette. Et puis, ben, fin 2024, il restera un carton vide. Bien pour l'ambiance. Merci. Ah, ce calendrier, il en a des choses à nous dire, hein. Ce calendrier qui est nouveau, ce calendrier qui prend le relais, peut-être sommes-nous essoufflés après cette année. En tout cas, peut-être nous sommes interrogatifs, très certainement, pour l'année qui vient. Et parmi les réponses les plus courantes, eh bien, nous avons eu des pourquoi et nous avons eu des jusqu'à quand. Jusqu'à quand? Surtout quand nous sommes dans la souffrance, nous disons à Dieu, mais jusqu'à quand est-ce que cela va durer? C'est le cri de Job face au harcèlement de ses amis. Jusqu'à quand, dit-il, affligez-vous mon âme et m'écrasez-vous de vos propos? Même quand on est en bonne santé, il arrive qu'on dise à Dieu, ça va là, c'est bien. Mais jusqu'à quand ça va durer, hein? Voilà, on est avec cette question. Et c'est cette question qui va, ce matin, nous amener à réfléchir, à méditer devant Dieu. Cette interpellation, Seigneur, jusqu'à quand? C'était l'interpellation déjà des psalmistes, hein? Psaume 74, « Jusqu'à quand, ô Dieu, l'oppresseur déshonora-t-il, l'ennemi méprisera-t-il sans cesse ton nom ?» Et puis, dans un autre psaume, « Éternel, Dieu des armées, jusqu'à quand, toi, t'irriteras-tu contre la prière de ton peuple ?» Et puis, psaume 89, « Jusqu'à quand, éternel, te cacheras-tu ? Je cherche ta face, mais je ne la trouve pas, Seigneur. » 90, verset 13, « Reviens, éternel, jusqu'à quand cela va durer ? Aie pitié de tes serviteurs. » Ah, ce jusqu'à quand ? C'est quelque chose, hein, comme question devant Dieu. Il n'y a pas que les psalmistes ou Job qui ont posé cette question. Il y a aussi les prophètes. Ésaïe, verset 11 du chapitre 6, « Je dis à Dieu, jusqu'à quand, Seigneur ?» Et puis Habacuc, 1, verset 2, jusqu'à quand, éternel? Et puis Jérémie, jusqu'à quand le pays sera-t-il dans le deuil et l'herbe de toute la campagne sera-t-elle desséchée? Ah, jusqu'à quand? Alors, on va nous laisser conduire par la question, jusqu'à quand, qui est la question de celui qui attend. Quand on attend, voilà, on se pose ce type de question. C'est la question à laquelle Dieu a répondu. Ça, c'est intéressant de le savoir. Et puis, ben, que devons-nous faire en attendant? Il y aura une dernière partie aussi, mais celle-là, on va la garder pour plus tard. Alors, c'est la question, jusqu'à quand, de celui qui attend, n'est-ce pas? Celui qui n'attend pas ne se pose pas la question de jusqu'à quand. Celui qui attend la fin d'une épreuve, interrogation du malade, du souffrant, celui qui est dans une situation de précarité, il sent son corps lutter. Psaume 13, verset 3, « Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme ? Et chaque jour du chagrin dans mon cœur, jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi ?» Alors l'ennemi, ça peut être quelqu'un, ça peut être une pensée, une situation, ça peut être aussi la santé qui est attaquée. Donc celui qui attend, pas forcément dans de mauvaises conditions, il y a celui qui attend la réalisation d'une promesse de Dieu, qui dit à Dieu, mais jusqu'à quand dois-je attendre ? C'était le cas d'Abraham. Vous savez, Abraham, quand à chaque fois Dieu lui apparaît, il lui pose la question, indirectement ou directement. Abraham répondit, « Seigneur éternel, que me donneras-tu ? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. » En gros, moi je vais attendre jusqu'à quand ? Fais vite ! Ah Seigneur, fais vite ! C'est aussi la question des fidèles de l'Ancien Testament qui attendaient le Messie. Et le Messie est arrivé, et la question demeure, jusqu'à quand Seigneur ? Ton retour, jusqu'à quand vas-tu tarder ? Les disciples de Jésus semblent un peu le presser en disant, dis-nous, quand est-ce que cela va arriver ? Quels seront les signes annonçant la fin de toute chose ? Ah, ce jusqu'à quand ? Aujourd'hui même, très certainement, en Israël, il y a des juifs pieux qui posent la question à Dieu. Jusqu'à quand allons-nous souffrir ? Et dans toutes les nations, cette question monte à Dieu. Non seulement cette question traverse les nations, les siècles, la terre, mais cette question, eh bien, elle est dite sur la terre comme dans le ciel. Et dans le ciel aussi, il y a des hommes et des femmes qui posent la question à Dieu. Apocalypse 6, verset 10, ils crièrent d'une voix forte, « Jusqu'à quand, maître, saint et véritable, tarderas-tu à faire justice et à venger notre sang sur les habitants de la terre ?» Ah, jusqu'à quand ? Alors Dieu aurait pu ne pas répondre, et on aurait dit, ben, on reste sans réponse. Il y a des domaines dans lesquels Dieu ne répond pas. Il est silencieux. Non pas inactif, mais silencieux. Mais Dieu a décidé de répondre dans la parole à ses disciples, à ses prophètes. Et la réponse de Dieu, elle est tout d'abord que, eh bien, à chaque fois, il rappelle son engagement. C'est très curieux, hein ? À chaque fois que l'homme pose la question « jusqu'à quand ?» comme Abraham, Dieu dit « mais moi, je me suis engagé. » Genèse 17, par exemple, et Genèse 18, « mais Dieu dit, Abraham, certainement, ta femme Sarah va te donner un fils. Oui, mais jusqu'à quand ? Oui, et puis tu l'appelleras Isaac. Ah, tu peux commencer à préparer les faire-part. Hein. Ça, c'est bien de savoir ça bien à l'avance. Hein. Et j'établirai mon alliance comme une alliance perpétuelle avec lui et sa descendance après lui. Et puis une autre fois, Abraham, ce que Dieu dit, Abraham deviendra certainement une grande nation, puissante aussi, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Alors, à la question de jusqu'à quand, Dieu répond certainement. Ah, ça c'est intéressant. Voilà quelque chose sur laquelle on peut se poser. Certainement, dit-il. Et vous savez, même Job a compris cela. Et quand ses amis commençaient à le harceler et à l'accuser, qu'est-ce qu'il répond ? Eh bien, de cette réponse de Dieu. Certainement, Dieu vous fera des reproches. Ah, ça c'est sûr. La réponse à nos jusqu'à quand, c'est la certitude de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, eh bien, elle est remplie de ces certitudes. Alors c'est compliqué aujourd'hui de dire je suis sûr de cela. C'est un peu chacun sa vérité, hein ? Mais c'est pas ma vérité, c'est la vérité que Dieu nous transmet. C'est ce qu'il nous dit. La réponse est jusqu'à quand la certitude de l'action de Dieu. Mais il n'y a pas que l'homme qui pose cette question. Il y a aussi à son tour Dieu qui s'adresse aux hommes et qui leur dit, par la bouche de ses prophètes et de sa parole, « Mais moi aussi j'ai besoin de vous demander jusqu'à quand ?» Par exemple, Élie dira, il s'approchera du peuple, il dira, « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux pieds ?» Bonne question. Si l'Éternel est Dieu, ralliez-vous à lui. Si c'est Baal, ralliez-vous à lui. Et choisissez un camp, en gros. Et le peuple réagit, il répond rien. Psaume 4, verset 3, « Fils des hommes, jusqu'à quand ma gloire sera-t-elle changée en confusion ?» Jusqu'à quand aimerez-vous la vanité et chercherez-vous le mensonge? Psaume 82, jusqu'à quand jugerez-vous avec injustice et aurez-vous égard à la personne du méchant? Alors, c'est jusqu'à quand apparaît dans une quarantaine de versets dans la Bible. Et c'est très curieux parce que Jésus lui-même pose la question à ses contemporains. Et c'est présent dans l'évangile de Matthieu, Marc et Luc. Jésus répondit, « Race de vipères et perverse, jusqu'à quand serai-je avec vous ?» Ah, ça fait mal, hein ? Et il rajoute, « Jusqu'à quand vous supporterai-je ?» Il le dit avec beaucoup d'amour, mais ça, c'est jusqu'à quand qui monte, hein ? Eh oui. Et à ce jusqu'à quand, il y a aussi quelque chose, c'est le certainement. Certainement, pour quiconque ne répond pas à l'appel de Dieu, il y a un certainement. Hébreux 3, verset 11. « Eh bien, j'ai donc juré dans ma colère, ils n'entreront certainement pas dans mon repos. » Jusqu'à quand ? Certainement. Dieu ne sera jamais en colère envers toute personne qui vient à lui. Il s'est engagé pour toujours. Certainement. S'il est vrai que nos péchés sont énormes, la grâce de Dieu est bien plus grande encore pour accueillir le pécheur. Mais il y a aussi un certainement pour celui qui rejette cette grâce. La réponse de Dieu, c'est un certainement. Mais la réponse de Dieu aussi intègre une intervention surprenante. Jusqu'à quand, Seigneur, cela va-t-il durer ? Et quand Dieu a donné une autre réponse, cela remplit de crainte les prophètes. Ils ont compris que les souffrances précéderaient la délivrance finale. Eh oui, Ésaïe 11 qui a dit « Jusqu'à quand, Seigneur ?» Eh bien, Dieu lui répondit « Jusqu'à la dévastation, que la dévastation ait privé les villes d'habitants et les maisons d'êtres humains, que le sol dévasté soit une désolation. » Waouh ! Aïe ! La délivrance passe par la souffrance. Eh oui, nous savons qu'il en sera de même au jour du Seigneur, n'est-ce pas ? Séduction, dit Jésus, guerre, bruit de guerre, famine, cataclysme, persécution. Les actualités que nous suivrons en 2024 laisseront peut-être entrevoir par l'ampleur des souffrances la réalisation prochaine de la délivrance de Dieu. Ne l'oublions pas. La venue de Jésus, son retour, sera précédée de grandes souffrances pour l'humanité. Quand ce qu'était ceux qui sont dans le ciel ont posé cette question, « Jusqu'à quand, Seigneur, tarderas-tu ?» dans l'Apocalypse. La réponse de Dieu a été claire. Hein. Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux et leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que soit au complet leurs compagnons de service et leurs frères qui allaient être mis à mort comme persécution. Verset 12, « Je regardais, dit Jean, et quand il ouvrit l'ange, le sixième sceau, il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crème, la lune devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier est secoué par un vent et qui laisse tomber ses figues. » Alors ça c'est pour la délivrance ultime. Quand on est dans des moments de souffrance. Mais cette question d'attente concerne aussi les bénédictions. Pensons à Abraham. Lorsqu'il a reçu la promesse, entre la promesse et l'accomplissement, eh bien Abraham, eh bien il passait par pas mal de douleurs. Pensons à David. David a enduré entre la promesse d'être roi avec l'onction de Samuel et la réalisation jusqu'à l'accès au trône, eh bien, il a enduré bien des douleurs, des calamités, du harcèlement. C'est ce que nous avons lu, si vous avez fait attention, au psaume 57 ce matin. David dit à Dieu, merci pour tes promesses, mais qu'est-ce que je souffre, hein? C'est ce qui transparaît de la vie de David. Pensons à la venue de Jésus qui ne s'est pas faite sans souffrance. Oui, jusque Zacan intègre aussi la notion de souffrance. On aimerait l'évacuer de nos vies. Je suis d'accord. On aimerait trouver, voilà, le médicament magique qui nous préserverait. Mais il y a ce que nous aimerions et il y a ce à quoi la parole de Dieu, eh bien, nous demande d'être prêt et d'y réfléchir. Alors, en attendant cette délivrance de Dieu, peut-être une bénédiction qui nous a promise et qui va se réaliser, ou peut-être la délivrance avec son retour, eh bien, en attendant cela, qu'allons-nous faire? Peut-être nous allons rester bien enfermés chez soi, éviter tout contact, grand confinement jusqu'à la fin. Alors, si la question n'est jusque à quand, Seigneur, est légitime, pour quiconque a mis sa foi en Dieu, eh bien, en attendant, souvenons-nous de son amour et de sa compassion. Dieu n'est pas le Dieu cruel qui aime nous voir souffrir et dire « Ah, c'est bien, mes enfants souffrent !» Non, non, la souffrance fait partie de la vie chrétienne. C'est pas évident de le dire, ça n'a pas trop bonne presse, c'est pas très à la mode, mais c'est une réalité. Cela fait partie de notre vie chrétienne. En attendant, eh bien, regardez ce que dit Habacuc. Quand il a dit jusque à quand, eh bien, Habacuc dit deux chapitres après, accomplis ton œuvre, Seigneur, mais dans ta colère, souviens-toi de tes compassions. Ah! Rappelons-nous, en 2024, tous les jours, que Dieu est un Dieu qui nous aime. Il a prouvé son amour, même si ça a été difficile, dans certaines situations en 2023. Et il le prouvera encore. C'est un pasteur, donc Henri Mathieu, dont on peut admirer la chevelure. Ceci, dit-il, donc cette application, donc s'applique chaque fois que l'Église ou les croyants souffrent d'affliction ou sont mis à l'épreuve. Nous devons trouver refuge dans la miséricorde et ne dépendre que d'elle pour notre défense. Nous ne devons pas dire à Dieu, souviens-toi de nos mérites, mais Seigneur, souviens-toi de tes compassions. Que dit la parole? Dieu est lent à la colère et il est riche en bonté, bienveillance. Mon frère, ma sœur, sans la bonté de Dieu déjà dite, déjà posée sur nous, en 2024, sans sa compassion, il n'y aurait aucun espoir pour nous. C'est cela notre espérance et cette promesse que nous pouvons nous rappeler tous les jours. Repassons dans notre cœur les bontés de Dieu à notre égard. Et c'est bon parfois de chanter. Même si nous n'avons pas, nous, la forme de chanter parce que nous sommes accablés par un sujet, et Dieu sait qu'il y en a. Mais il est bon parfois de relever nos têtes et de dire, Seigneur, je veux quand même me souvenir de tes bienfaits. Et je veux quand même les compter devant moi. Mon âme, dit le psalmiste, mon âme, il réveille son âme, hein, bénit l'Éternel, allez, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Dieu a eu des bienfaits en 2023 pour nous. Et il en aura encore, il n'est pas sans réserve, il en aura encore pour 2024. Souvenons-nous de ça, de son amour, de ses bontés. Je veux me souvenir de ce que tu as fait pour moi. C'est appel à la volonté, hein. C'est pas je me laisse aller, mais je réveille mon âme. Je veux m'en souvenir. Et puis en attendant, eh bien, rappelons-nous qu'il nous faut demeurer ferme dans sa grâce et avec sa grâce. Il nous a aimés, nous devons aimer. Il a été fidèle envers nous et nous devons montrer notre fidélité envers lui. C'est parce que Dieu est fidèle que nous pouvons lui faire confiance. Avoir foi en lui et cette confiance nous donne la force de tenir ferme. Je sais, Seigneur, que ma vie est entre tes mains. Cela nous aide à tenir ferme, à être fidèles, pas en nous reposant sur nos propres forces, mais dans les forces qu'il nous donne. Jésus a dit, celui qui est fidèle en peu de choses est aussi fidèle, bien dans ce qui est important, comme celui qui est injuste en peu de choses est aussi injuste dans ce qui est important. Alors cette fidélité, eh bien, voilà ce que dit Bob Gass, dont peut-être vous connaissez les écrits, Dieu commencera par vous tester dans des choses qui ne demandent que peu de foi, de petites choses. Et nous aurons des tests dans des petites choses. Et si vous passez l'examen, il mettra dans une situation qui en demande un peu plus de confiance, plus de foi. Chaque fois que vous prouvez votre volonté à lui faire davantage confiance, il se révélera un peu plus à vous. C'est ainsi qu'il procède. Chaque pas de foi conduit à approfondir, enrichir et bonifier votre relation avec lui. Ce que vous faites aujourd'hui est important et détermine ce que Dieu vous appellera à faire demain. Alors, soyez fidèles dans de petites choses. Ça fait beaucoup pour nous, une année à envisager. C'est pas ce que Dieu nous demande. Dieu ne demande pas d'envisager toute l'année 2024. De quoi sera-t-elle faite? Je n'en sais rien. Mais ce que Dieu nous demande, c'est la fidélité jour après jour, peut-être heure après heure, dans des petites choses. Décide d'être fidèle à Dieu. Peut-être reprendre la lecture biblique. Peut-être reprendre un temps de prière. Parfois, on part, vous savez, je vais me remettre à lire la Bible et on se prévoit de lire 7, 6, 10 chapitres. Oh, ça fait beaucoup à manger, hein? Dans les petites choses. La prière, dans les petites choses. Dans le pardon. Peut-être nous avons à pardonner. Nous aurons encore certainement à pardonner. Prenons l'habitude de commencer à pardonner les petites choses. Peut-être nous sommes un peu soupolés, on se met en colère vite, rapidement. Ça nous dépasse. Eh bien, venons à Dieu, remettons cette colère dans les petites choses, par des actes d'amour aussi, dans des petites choses. Voilà, Dieu nous demandera de l'aimer et de lui rester fidèle. Comme lui est avec nous, il nous aime et il est fidèle. Et quand nous serons moins fidèles, eh bien, nous pourrons compter sur sa fidélité pour nous relever. J'aurais pu m'arrêter là, mais j'avais quand même le désir, parce que moi, ça m'a fait du bien, de me rappeler qu'il y a aussi une promesse pour ceux qui marchent avec le Seigneur. Et ça, c'est important de se le rappeler. Il y a une récompense, et oui, Dieu a une récompense, pour ses enfants, ceux qui marchent avec foi. Et vous savez, la Bible emploie ce mot des vainqueurs. Alors, celui qui a accepté le Seigneur dans son cœur et qui marche avec lui est un vainqueur. Moi, je pensais au départ qu'un vainqueur, c'était maintenir sa foi sous un tison bien chaud où on me demande de renier. Quand j'étais jeune, je pensais ça. Je dis, waouh, qui c'est qui va pouvoir dire oui, hein? Non, être vainqueur, c'est dire à Dieu, jour après jour, je te fais confiance et je veux marcher comme tu me le demandes. Alors, à ces vainqueurs, voici les promesses qu'il fait. Et nous sommes bien plus que vainqueurs en Jésus-Christ, n'est-ce pas? Voilà la promesse. Et on trouve ces promesses dans le livre de l'Apocalypse. Cette promesse, au vainqueur, à celui qui vaincra, eh bien je lui donnerai à manger l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Ça veut dire que toi qui as la foi, mon frère, ma sœur, tu es déjà vainqueur, ce qui a été perdu et ce qui t'a été enlevé dans le jardin d'Éden sera accessible. Vie éternelle. À l'église de Smyrne, il dit, celui qui vaincra, eh bien n'aura pas à souffrir de la seconde mort. On devrait sauter de joie ce matin. C'est un nouveau rappel de ce qui s'est passé au commencement. Par le péché, la mort est rentrée dans le monde. Et cette mort éternelle, nous qui avons cru, n'a plus d'impact sur nous. Nous serons vainqueurs de cette mort. La victoire sur cette mort est assurée aux vainqueurs. À l'église de Pergame, celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau, que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. C'est certainement une allusion à Israël lorsqu'il a été délivré d'Égypte, sauvé grâce au sang qui a été posé sur le linteau. Dieu a pourvu après à la nourriture dans le désert, jour après jour. Et c'est ce qu'il fera encore avec nous. Ici, il donne une identité au vainqueur. Nous ne serons plus et nous ne sommes plus esclaves, Nous ne serons plus étrangers, mais nous serons totalement citoyens de Dieu avec un nom connu de Dieu. C'est cela que Dieu nous promet. Et puis, à l'église de Thyatire, à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera, et Jésus donc les pètera avec une verge de fer, comme on brise le vase d'argile. Ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père, je lui donnerai l'étoile du matin. Jésus se montre ici comme quelqu'un qui a le pouvoir de maîtriser toute chose. On le connaît peu sur cet aspect. Hein. Il règne avec un sceptre de fer. Hein. Mais c'est lui qui a l'autorité absolue. Eh bien, le vainqueur, il est fait la promesse au vainqueur de participer à cette victoire. Mon frère, ma sœur, c'est la victoire de Jésus qui nous attend. C'est merveilleux, non? C'est la victoire de Jésus qui nous attend. L'église de Sardes, celui qui vaincra, sera vêtu d'un vêtement blanc. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Le vêtement blanc, celui du juste, celui que le sacrificateur portait quand il rentrait en communion avec Dieu, le nom du vainqueur, notre nom, ton nom, mon nom sera prononcé en présence du Père et des anges. Et puis à Philadelphie, il est dit, à celui qui vaincra, je lui ferai une colonne dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira plus, j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, le nom de la ville et de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Cela confirme ce qui a été promis avant. Le vainqueur, nous serons dans le temple et nous y resterons. Nous aurons part à la nouvelle création, toute nouvelle, sur laquelle Jésus règnera totalement. Et puis, la dernière, une des dernières et des plus belles promesses de Dieu. À celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. C'est certainement la promesse la plus étonnante et merveilleuse que Dieu peut nous faire. Jésus nous invite à monter dans sa présence, mais à monter sur le trône où il est assis avec le Père. On devrait juste s'arrêter là et dire « Alléluia Seigneur !» Tu vas monter sur le trône avec le Père, avec Jésus. Il nous invite à cela. Cela dépasse tout ce que l'homme peut imaginer, absolument tout. Et comme Paul l'a écrit, des choses que l'œil n'a jamais vues, des choses que l'oreille n'a jamais entendues. Voilà ce qui nous attend. La créature assise avec le Créateur, le péché, le pécheur que j'étais, que tu étais, sera pleinement purifié et assis aux côtés de ce Dieu trois fois saint. C'est l'expression là d'une communion parfaite avec Dieu. Oui. Voilà les promesses de Dieu pour nous. Voilà les promesses de Dieu qui resteront en 2024 et après. Alors la conclusion, eh bien on peut dire, l'année n'a pas commencé encore, on est au tout début. Mais nous pouvons déclarer qu'en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Mon frère, ma sœur, que cette vision illumine notre présent, notre Église et notre témoignage. Que ses promesses nous encouragent à marcher à sa suite avec beaucoup de quiétude, d'assurance et fidélité. Que Dieu vous bénisse. Bonne année et meilleurs vœux de la part du Seigneur. Amen.